Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Bassem Assé, premier adjoint de la maire de Nantes, en charge du dialogue citoyen, du monde économique et de l'emploi, de la politique de la ville et de la proximité, membre du conseil métropolitain. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes heureux de saluer les auditeurs de Nantes et de son agglomération. J'aimerais qu'on commence cet entretien par votre parcours personnel et politique. Vous êtes né et vous avez grandi au Liban.
Oui, tout à fait. Donc je suis né en 1974, quelques mois avant le début de la guerre qui a duré de 75 à 90. Et je suis parti du Liban en 1990 à l'âge de 16 ans. On a quitté le Liban au moment où la guerre se terminait, mais évidemment à l'époque on ne le savait pas. En tout état de cause, on s'est installé en famille, donc ma mère, mon père, ma sœur et moi-même à Lyon, où on avait déjà un peu de famille qui était installée là-bas. Moi, j'ai fait mes études lycée, prépa à Lyon, et puis ensuite école de management à Grenoble, et à ce moment-là, mes parents sont retournés au Liban en 1995, donc j'ai gardé le lien avec le Liban au travers de mes parents et en y allant une fois tous les deux ans en vacances. Et puis sinon, j'ai fait ma vie ici, je me suis marié avec une Nantaise, on a vécu un peu à Paris, et puis ensuite, il y a une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans maintenant, 15-16 ans, on s'est installé à Nantes. Et donc j'ai eu une carrière dans le secteur du numérique, dans le secteur privé, et puis en 2013-2014, Johanna Roland m'a proposé d'être candidat sur la liste aux élections municipales qu'elle portait, qu'elle animait, et donc on a été élu, moi j'ai été élu pour la première fois en 2014. Et en 2020, elle m'a demandé, au moment des élections municipales de 2020, elle m'a demandé si j'étais OK pour être son premier adjoint, ce que, évidemment, j'ai accepté. Donc voilà un parcours d'une trentaine d'années en France.
Alors, vous êtes très attaché à la République et vous répétez souvent que le volontarisme politique vous est chevillé au corps. Quelle est votre conception du volontarisme en politique ?
Alors, c'est probablement aussi lié au fait que d'avoir grandi dans un pays où l'État est quasi inexistant, le Liban. C'est aussi probablement lié au fait que je connais quelques autres pays où l'État est un peu moins présent dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie culturelle, etc. Et donc, pour le coup, j'ai le sentiment que l'une des caractéristiques de la France, c'est que l'État intervient dans un certain nombre de secteurs d'activité. Alors, certains diront qu'il intervient trop, d'autres diront qu'il n'intervient pas assez. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de ligne de crête sur laquelle on se met qui permet que les choix collectifs que l'on fait soient le fruit d'un vote démocratique. Donc, on décide ensemble de, par exemple, d'avoir un filet de sécurité qu'on appelle la sécurité sociale. On décide ensemble d'investir dans des secteurs d'activité comme, par exemple, le TGV ou le nucléaire dans le passé et demain, peut-être, des investissements liés à la transition écologique. Ça, c'est tout ça. Ce sont des choix que l'on fait ensemble collectivement de manière démocratique qui sont portés par l'État et de plus en plus le secteur privé, mais quand même, l'impulsion vient de l'État. Et pour le coup, quand je dis que je crois dans le volontarisme politique, eh ben je crois en ça. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est un sentiment qui est fondamentalement démocratique, j'allais dire. Et je crois qu'on a la chance d'avoir ça en France et en Europe quand même, ce qui nous donne quelques avantages par rapport à d'autres régions du monde.
Bassem Assé, les Français sont confrontés à une crise énergétique sans précédent. Le ministre du Logement vient de confirmer qu'il y aura bien un bouclier tarifaire dans les logements sociaux. Vous, en tant que premier adjoint de la mairie de Nantes, comment concevez-vous l'action des élus locaux pour amortir cette crise énergétique? Je pense notamment aux personnes les plus fragiles de la ville.
Tout à fait. Donc en fait, à Nantes, par exemple, nous avons mis en place dans les dernières années, disons dans les 6-7 dernières années, un réseau de chaleur, un réseau urbain, donc de chaleur qui est déclenché au travers d'un certain nombre de technologies plutôt propres, plutôt qui ne polluent pas et qui permettent d'alimenter en chaleur, un réseau de chaleur urbain, qui permettent d'alimenter en chaleur les chauffages dans certains quartiers populaires de la ville. Donc ça permet de limiter les factures. Mais surtout, je pense que l'énergie la plus propre est probablement, et donc la moins coûteuse, est probablement celle qu'on ne consomme pas. Et donc typiquement, la question de la rénovation thermique des logements, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. On le prend en compte lorsqu'on rénove des quartiers populaires qui ont été construits dans les années 60-70. Et donc, quand on rénove, eh ben, on rénove aussi d'un point de vue thermique. Je pense que s'il y avait un investissement majeur qu'on devrait faire en France et en Europe, c'est certainement ça, dépenser tout l'argent qui est nécessaire pour faire en sorte que la rénovation thermique nous évite de consommer de l'énergie qui n'a pas besoin d'être consommée, et donc, par conséquent, de réduire la facture d'électricité ou de gaz ou autre à la fin du mois ou à la fin de l'année. Voilà, je pense que ça, c'est un élément important sur lequel il faudrait investir encore plus que ce que l'on fait aujourd'hui à l'échelle du pays.
Alors, il y a un scandale autour de la précarité alimentaire en France. Les Restos du Cœur ont tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours. La question du prix de la cantine est cruciale durant cette période pleine d'incertitudes pour les familles. Est-ce qu'il est urgent aussi d'aider davantage les banques alimentaires ?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est apparu de manière très flagrante pendant la crise du Covid, et que pendant la crise, en particulier en direction des jeunes, des étudiants, etc., c'était probablement quelque chose qui était très peu visible avant la crise du Covid, et la crise du Covid n'a fait que l'accélérer et le mettre en lumière. Et donc, typiquement, moi, je sais qu'à Nantes, il y a des associations qui, pendant la crise du Covid, se sont mises à faire de la distribution alimentaire, distribution de paniers solidaires, etc. Tout ça, c'était des choses qu'elles ne faisaient pas avant et qu'elles se sont mises à faire au moment de la crise du Covid et qui s'est poursuivie après, une fois qu'on est sorti des confinements, etc. Clairement, c'est un sujet qui, dans le dernier mandat, était très peu présent. Je parle de l'époque 2014-2020, et depuis 2020, c'est quelque chose qui est très présent. On aide, nous, les associations pour qu'elles puissent le faire. Elles-mêmes mettent des moyens, y compris en particulier des moyens pour pouvoir distribuer, accéder aux personnes les plus éloignées, au public éloigné, comme on dit. Et donc, on constate aujourd'hui que, typiquement, Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur ont besoin d'aide, ont besoin d'accéder à ces denrées alimentaires, ont besoin de dons. Et donc, si l'État pouvait lui aussi s'y mettre, il le fait hein, certainement, mais je pense qu'il en faut plus, ce qui permettrait à chacun de pouvoir se nourrir. Et surtout, je pense que c'est un élément important de pouvoir se nourrir de la manière la plus équilibrée et la plus saine possible, parce que ça, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. Se nourrir, c'est très bien, mais se nourrir de manière saine, c'est quelque chose qui doit être accessible et abordable, quelle que soit la couche sociale à laquelle on appartient. L'alimentation saine ne doit pas rester l'apanage de ceux qui peuvent se la payer. Le plus elle peut se répandre, le mieux c'est.
Bassem Assé, il y a quelques jours, Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, et Philippe Brun, député de l'Eure, ont publié un texte qui demande à la gauche de se réveiller face à l'extrême droite, qui a, selon eux, préempté des thèmes comme le travail, la nation, la justice, la laïcité. Les deux parlementaires estiment que la défense de la République est confisquée par l'extrême droite. Partagez-vous cette analyse ?
Oui, tout à fait. Je pense que des thèmes comme la nation, par exemple, historiquement, c'est un thème plutôt de gauche. C'est quelque chose qui s'est installé au moment de la Révolution française. Une nation civique, évidemment, c'est-à-dire une nation de citoyens. C'est très différent de la nation ethnique à laquelle se réfère l'extrême droite, où on doit être d'une certaine couleur, issu d'une certaine région, depuis plusieurs générations. C'est pas du tout ça l'idée de la nation au départ en France. L'idée de la nation, c'est la nation des citoyens. Et c'est ce qui fait la caractéristique de notre pays depuis la Révolution française, peut-être même depuis un peu plus tôt. En tout cas, des thèmes comme ceux-là, ils sont importants à une époque où on vit une mondialisation qui fait que les marchandises s'échangent très facilement, les cultures s'échangent. La globalisation, c'est quelque chose qui est un phénomène majeur depuis 30-40 ans. Et l'attachement des Françaises et des Français, et c'est aussi le cas ailleurs dans d'autres pays, mais en tout cas en France, l'attachement à l'idée de nation, eh bien, en fait, il n'est pas nécessairement d'extrême droite. À partir du moment où on considère que lorsqu'on est citoyen, on est membre de cette nation, c'est normal que la gauche réclame et récupère et promeuve cette idée qui date de la Révolution française, je le souligne, la notion de nation, de citoyen, d'une part. Et d'autre part, vous avez aussi cité la question de la laïcité, par exemple. C'est complètement aberrant que la laïcité, que l'extrême droite, et même la droite dans une certaine mesure, a combattu historiquement pendant une bonne partie du tournant entre le 19e et le 20e siècle. C'est complètement aberrant que la gauche puisse penser, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais que la gauche puisse penser que ce sujet-là est un sujet d'extrême droite, ça me paraît là aussi complètement aberrant. La laïcité, c'est le fait que les religions ne puissent pas interférer dans la sphère politique publique, et inversement, le fait que la sphère politique ne puisse pas intervenir dans les religions pour que chacun soit à l'aise dans son domaine et dans son périmètre. Et donc c'est une loi, la laïcité, ce sont des lois qui garantissent la liberté et l'égalité entre les citoyens. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il suffit de regarder les pays qui ne bénéficient pas de ce principe, de voir comment les choses évoluent chez eux par rapport à la façon dont ça évolue chez nous.
Une question d'actualité. Dans une interview au Parisien, Gabriel Attal annonce que le gouvernement va encore plus concentrer ses efforts sur les classes moyennes. Il dit qu'il souhaite envoyer un message à la France laborieuse qui se lève tous les matins. C'est une formule qui rappelle la France qui se lève tôt de Nicolas Sarkozy. Comment interprétez-vous cette déclaration d'un des ministres emblématiques du gouvernement d'Elisabeth Borne qui vient de la gauche ?
Alors, ça c'est vrai que c'est toujours compliqué cette histoire de venir de la gauche. En réalité, la gauche c'est des idées, des paroles et des actions. Et en fait, on juge les hommes, on évalue du moins le positionnement droite ou gauche centre droit des hommes et des femmes politiques sur la base de leurs idées, de leurs paroles et de leurs actions. Quand on promeut une loi sur le chômage qui va mettre un certain nombre de nos concitoyens qui sont actuellement demandeurs d'emploi dans une situation vraiment précaire, parce que la nouvelle loi sur le chômage fera ça, elle les mettra dans la précarité encore plus, eh bien évidemment, ça, ce n'est pas une logique de gauche. Même si on prétend venir de la gauche, ça n'est pas le cas. Les actions permettent de juger l'arbre à ses fruits, comme on dit souvent. Maintenant, sur la question de la France qui se lève tôt, franchement, pour moi, le fait de se lever tôt, que ce soit pour aller chercher du travail ou que ce soit pour travailler, quel que soit le job dans lequel on est, eh bien évidemment, c'est quelque chose qui est respectable, que chaque politique publique doit prendre en compte, et le fait que des politiques s'intéressent aux hommes et aux femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, ça me paraît complètement normal. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils considèrent que tous ceux qui sont au chômage ne se lèvent pas tôt, que ce sont des fainéants, etc. Ça paraît complètement aberrant, parce que c'est prendre une infime minorité et la généraliser et stigmatiser un ensemble d'hommes et de femmes dans ce pays qui cherchent du travail, qui essayent d'en trouver. Parfois, il y a une inadéquation entre leurs compétences, leur formation et ce que les employeurs cherchent. Eh bien, les hommes et les femmes politiques doivent surtout faire en sorte que cette adéquation existe et que les emplois soient remplis par les demandeurs d'emploi. C'est aussi simple que ça.
Bassem Assé, la presse a mis l'accent sur l'insécurité à Nantes ces dernières semaines. La maire Johanna Roland affirme que la bataille pour la sécurité fait partie de la bataille pour l'égalité. Est-ce que la création d'un service de sécurisation des transports en commun doté de 60 à 90 policiers est une bonne nouvelle pour votre ville ?
Quand on dit que la sécurité, la bataille pour la sécurité fait partie de la bataille pour l'égalité, c'est simplement parce que où que l'on habite, où que l'on vive, dans une société, on a le droit au même niveau de sécurité. Que l'on habite dans un quartier populaire, dans un quartier intermédiaire, dans un quartier pavillonnaire, en ville ou à la campagne, dans un centre-ville. Cette sécurité, c'est la base de notre vie commune. Si on se met ensemble à vivre dans une société, c'est parce que la société est capable de nous offrir la sécurité que l'on espère, sans retirer quoi que ce soit à notre liberté individuelle aux uns et aux autres. Et donc, oui, le fait d'avoir plus d'effectifs de police, à la fois police municipale, à la fois police métropolitaine des transports, puisqu'on a ça à Nantes, mais aussi la police nationale, y compris dans sa présence dans les transports en commun, eh bien, c'est une bonne chose pour garantir la sécurité des Nantes et des Nantais. Mais il manquera quelque chose d'extrêmement important, c'est le bout de la chaîne, puisque la chaîne part de la prévention jusqu'à la justice en passant par la police. Eh bien, le bout de la chaîne, c'est la question de la justice. Et à Nantes, nous manquons d'effectifs du ministère de la Justice. On a fait une demande auprès du ministère de manière à ce qu'on puisse en avoir. Et pour nous, ça, c'est extrêmement important parce que la police seule ne suffit pas. Il faut que la justice puisse faire son travail, prononcer des peines, faire appliquer des peines, etc. Et dire ça, c'est pas un discours de droite ou un discours sécuritaire, etc. C'est le béaba de la vie en société, en fait, la question de la sécurité, au même titre que la question de la liberté, puisque les deux vont de pair. Donc voilà, c'est, à Nantes, comme ailleurs en France, c'est un sujet extrêmement important.
Alors la maire de Nantes a réagi favorablement à l'annonce surprise d'Emmanuel Macron qui veut créer 10 lignes de RER en France. Les habitants de la métropole de Nantes auraient besoin d'un tel train régional express ?
En fait, à Nantes, on travaille dans une logique d'alliance des territoires. C'est-à-dire que quand on mène un projet à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur de la métropole, on essaye aussi de faire en sorte que ce projet ait un impact positif sur le au-delà de la métropole elle-même, dans le reste du département, parfois même dans le reste de la région Pays de la Loire. Et donc, évidemment, le fait que des réseaux express régionaux comme celui qui a été proposé il y a quelques heures ou quelques jours par le président de la République, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous, puisqu'il contribue à cette alliance des territoires. Il contribue à tisser le lien entre ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent dans le périurbain et ceux qui habitent dans le rural. parce que tous ces gens-là travaillent ensemble la plupart du temps, peut-être pas à l'instant T, mais en tout cas travaillent ensemble progressivement pour améliorer la vie, la qualité de vie au quotidien dans ce bout de territoire de la France. Donc le fait que les transports en commun soient renforcés au-delà de la frontière de la métropole, c'est extrêmement important, d'autant plus que c'est bien économiquement, socialement, mais aussi bien écologiquement, puisque ça réduira certainement des transports en voiture qui sont aujourd'hui polluants, générant des gaz à effet de serre, etc. Donc sur plusieurs fronts, c'est une excellente idée. Reste à savoir comment tout ça se finance et comment on met les choses en place avec les collectivités concernées.
Alors, vous soutenez Olivier Faure pour le congrès du PS en janvier 2023 à Marseille. Est-ce que le PS a eu raison d'entrer dans l'accord de la NUPES avec notamment Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, cette coalition électorale s'est faite autour de celui qui est arrivé premier à l'élection présidentielle au premier tour, en l'occurrence premier à gauche. C'était logique. Si ça avait été un candidat écologiste, ça aurait été un rassemblement autour du candidat écologiste. Si ça avait été une candidate ou un candidat socialiste, ça aurait été la même chose et moi j'aurais été favorable à ce que ce rassemblement se fasse. Maintenant, évidemment que parfois il peut y avoir des dissensions à l'intérieur de la gauche, mais il y a aussi beaucoup de points de convergence. Il y a des divergences, il ne faut pas les nier, il faut les mettre sur la table et je crois que dans la coalition électorale qu'on appelle aujourd'hui la NUPES, ces divergences ont été mises sur la table, pas masquées, pas cachées, rien de tout ça. Les convergences existent, les divergences existent aussi. Maintenant, ça nous a permis, nous, en tant que Parti Socialiste, et c'était aussi le cas pour les communistes et pour les écologistes, ça a permis à tous ces partis de gauche qui sont partis dispersés au premier tour de la présidentielle d'avoir des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale en l'occurrence. Et donc, c'est ce qui leur permet d'exister durant un mandat. C'est ce qui leur permet de promouvoir leurs idées, de pousser leurs idées, parfois même de gagner des batailles à l'intérieur même de l'Assemblée nationale en faisant adopter des amendements, peut-être même des lois, qui sait de quoi l'avenir est fait. Et donc pour moi, c'est extrêmement important que cette façon de faire, c'est-à-dire que chacun à gauche puisse pousser ses idées, que les autres puissent l'y aider de manière à pouvoir, autant que possible, avoir des idées de gauche qui soient promues dans la société, d'une part, et éventuellement même incluses dans des lois, qui sait, ça peut peut-être arriver dans les mois qui viennent. Donc oui, dans le cadre du congrès de Marseille, je soutiens Olivier Faure parce que pour moi, ce serait une erreur de changer de fusil d'épaule au bout de 6 mois. On connaît les difficultés d'une alliance à gauche parce que la gauche a pendant longtemps été dispersée. Il faut continuer à faire des efforts pour qu'elle puisse se rassembler en vue de 2027, puisqu'en 2027, Emmanuel Macron ne sera plus candidat. Il aura déjà fait ses 2 mandats. Et donc, il est nécessaire que à gauche se dégage une candidature en 2027 qui puisse s'appuyer sur cette coalition électorale et gagner éventuellement.
Merci Bassem Assé. Je rappelle que vous êtes premier adjoint de la maire de Nantes, membre du conseil métropolitain. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.